Alors voilà, vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville, 5 FM, 102,3. Et c'est l'émission Planète Internationale, une émission où à chaque semaine on tente de jeter un regard critique sur l'actualité internationale et aussi sur l'actualité militante locale. Et justement, cette semaine, un petit spécial, on va parler pendant une bonne période, une bonne partie de l'émission avec Andrea Schmidt, militante très active dans la région de Montréal depuis plusieurs années, notamment avec la convergence des luttes anticapitalistes, et qui, avec le projet Iraqi Solidarity, projet, comment on dit en français?
Projet Solidarité Irak.
Irak a passé plusieurs mois dernièrement, revient tout juste, est revenu la semaine dernière d'un projet d'une espèce de séjour d'observation pour le projet Solidarité Irak et qui va nous parler aujourd'hui un petit peu de son expérience là-bas. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler du projet Solidarité Irak d'abord, juste nous faire une mise en contexte de quand est né ce projet-là et quel est son objectif?
Bien sûr, c'est un groupe, un petit groupe, mais un groupe quand même dynamique qui s'est formé il y a un an et demi avant l'invasion de l'Irak par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et c'est un groupe qui a comme but de soutenir les luttes contre les luttes du peuple irakien contre l'occupation par divers moyens, c'est-à-dire des moyens de pression, d'éducation populaire et des campagnes ici qui visent, disons, des corporations qui profitent de cette invasion, de cette guerre et de cette occupation, mais aussi en envoyant des délégués à court terme et à long terme en Irak pour témoigner aux différentes manifestations de l'occupation, à documenter le comportement des forces des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la coalition en général, et là de revenir et de faire ce témoignage au Québec.
Donc je présume que depuis le début de l'occupation, il y a eu plusieurs observateurs internationaux.
C'est ça. Même avant la guerre, il y avait des membres du groupe qui sont allés avec le Iraq Peace Team et Voices in the Wilderness qui a leur base à Chicago. Eux, ils étaient à Bagdad depuis 1996 en train de faire une campagne contre les sanctions. Le groupe ici à Montréal a envoyé des délégués avant la guerre, durant la guerre. Ils sont toujours revenus à Montréal pour encore une fois témoigner, expliquer ce que les nouvelles ne nous disent pas. Mmh. Et depuis l'invasion et depuis que l'occupation a débuté en avril 2003, il y a eu, je crois, trois petites délégations à court terme de 2-3 semaines. Et puis là, moi, j'étais la première déléguée à long terme, donc j'ai passé 3 mois à Bagdad.
Et dans ton cas, à toi, personnellement, est-ce que tu avais des objectifs personnels? Évidemment, de supporter le projet de solidarité. Est-ce que toi, tu t'étais fixé des objectifs personnels avec ce voyage-là?
Pour moi, c'était vraiment, j'avais deux buts. Un, j'étais envoyée par le projet Solidarité Irak.
Peut-être changer de place parce qu'on a un petit problème avec ton micro.
C'est on va comme à Bagdad. Sauf qu'à Bagdad, il y a
c'est comme les radios
en ce moment.
Irak, c'est ça?
Oui, si les lumières s'éteignent, ça sera comme à Bagdad. Oui, j'avais comme but qu'on avait formulé ensemble comme projet, vraiment d'y aller, de soutenir un projet commencé par des ONG internationales qui s'appelait le Occupation Watch Center à Bagdad. Et aussi, moi-même, je voulais faire autant de reportages indépendants que possible. Donc, je faisais des pièces de radio pour CKUT et aussi, j'écrivais des petits rapports à tous les 10 jours à peu près.
Okay. Et puis, donc, t'es resté combien de temps en tout?
3 mois.
OK. puis de camp en camp, juste pour... parce que je sais que tu étais là pendant, par exemple, l'insurrection chiite, pendant les massacres à Fallujah, tu étais là pendant des périodes clés, là, où sont des événements clés de l'occupation.
C'est ça. Je suis arrivée à Bagdad le 21 février, dans une période où, c'était clair, la vie était très difficile, mais c'était une période d'occupation où la misère était assez stable, où la répression était assez stable à Bagdad. Et là, j'ai passé jusqu'au 10 mai. Et donc là, j'ai vécu la fin de mars, tout le mois d'avril, lorsque le massacre à Fallujah s'est déclenché, comme tu viens de dire, puis Muqtada al-Sadr et le Jaish al-Mehdi a commencé leur insurrection aussi. Donc, en ce moment-là, avec les offensifs des militaires américains et de la coalition, j'ai vraiment vu la situation changer à une situation de pleine guerre en Irak.
Mais on pourrait y revenir tout à l'heure, mais je voulais te demander tes premières impressions quand tu es arrivé là-bas, parce qu'ici, on est vraiment détaché. Notre perception du conflit là-bas, notre perception de l'occupation est conditionnée par un langage médiatique, une langue de bois aussi, qui ne rend pas vraiment compte de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et bon, récemment, on nous a parlé des cas de torture, et c'est comme si les médias occidentaux venaient de découvrir la pratique de torture dans des situations de guerre, des situations d'occupation. Alors, quelles ont été tes premières impressions par rapport peut-être aux idées, aux préconceptions que tu avais avant d'arriver en Irak?
Puis je pense que tout justement, quand on regarde les médias, on voit les reportages sur les explosions, sur les attentats, sur les grandes démarches politiques. Mais quand on arrive à Bagdad et quand je suis arrivée en février, ce qui m'a paru le plus, c'est le visage quotidien de l'occupation. Et ça voulait dire qu'après un an, il manquait encore de l'électricité. Donc, il y avait des pannes d'électricité roulantes qui atteignaient tout le monde en ville, ce qui entrave pas mal au travail, à la circulation, etc. Il y avait de la pauvreté assez incroyable, une pauvreté que a augmenté pendant les années de sanctions, pendant aussi le régime corrompu de Saddam et répressif. Mais maintenant, il y a une situation à Bagdad où 60% de la population est sans emploi, où la majorité des fabriques, etc., fonctionnent à une capacité de peut-être 10%, où il y a vraiment une pauvreté croissante et assez immense dans une ville qui a quand même est très, très sophistiquée, qui a clairement à son apogée été très très riche, très très urbaine, et donc maintenant quand ça me frappait, je circulais dans les rues et il y avait beaucoup de familles qui squattaient des anciens bâtiments qui appartenaient à l'ancien régime de Saddam, qui sont maintenant vides et qui avaient trouvé de la place là. Il y a aussi la réalité donc du système de santé qui est très mal muni en ce moment, où il manque aussi beaucoup de médecins, etc., en plus des matériaux et de l'infrastructure a besoin de renouvellement. Et donc, ces choses-là, c'était de quoi plaignaient et de quoi remarquaient les Irakiens que j'ai rencontrés dans mes premières journées. Et aussi, les problèmes de sécurité. Tout le monde se sentait insécure. On ne savait jamais quand il allait y avoir comme une explosion ou si les forces américaines allaient circuler et décider qu'ils allaient rentrer en mode de combat et s'est lancé des balles un peu au hasard, tuer n'importe qui. Et ça, c'était comme vraiment la vie quotidienne, la peur quotidienne à Bagdad.
C'est vraiment une pratique courante, les raids un peu à l'aveuglette, ou c'est arrivé à quelques reprises?
Pendant les premiers mois de l'occupation et encore en ce moment, à Bagdad, les forces états-uniennes qui ont contrôle de la ville ne sortent pas du green zone, de la zone verte, comme on appelle leur quartier qui est entouré de murs en béton et de tours d'observation où on n'a pas le droit de prendre des photos, etc. C'est très, très militarisé. Donc, leur base militaire, ils sortent seulement pour faire des missions, soit d'arrestation, soit de patrouille. Ils sont toujours prêts à tuer. Donc, s'ils se sentent menacés, leur pratique est d'entrer en mode de combat. Et oui, il y avait beaucoup, beaucoup de cas où les gens étaient victimes de troupes qui tiraient vraiment au hasard dans la rue.
Puis pour revenir, tu parlais juste avant des problèmes, des besoins essentiels. Est-ce que on se demande si les besoins vraiment essentiels sont couverts, par exemple la distribution de nourriture? On sait aussi par rapport à la distribution de l'eau potable que l'administration américaine a donné à ses amis, entre autres la corporation Bechtel, le mandat de reconstruire les infrastructures. Et un an après, il n'y a absolument rien d'observable. On parle de contrats de plusieurs millions, sinon des milliards de dollars, qui ont été attribués en exclusivité, par exemple, à Bechtel. Et un an après, il n'y a rien d'observable, ce qui a conduit, ce qui est un peu ironique, ce qui a reconduit le contrat pour encore 2-3 ans, encore des millions qui sont déversés dans les poches des amis de l'administration américaine, mais les populations n'en ressentent aucun effet, si je comprends bien. Le système d'aqueduc n'a même pas commencé à être construit. Donc, comment les gens se débrouillent pour avoir de l'eau potable, pour avoir la nourriture, les services essentiels?
À Bagdad, dans la plupart des quartiers, il y a de l'eau potable, mais dans les quartiers les plus pauvres, évidemment, les gens, et aussi dans les camps de personnes déplacées à cause de manque de logement ou de déplacements militaires, c'est clair que les gens boivent de l'eau non potable. Et pendant cet été, ça sera un grand problème lorsque la chaleur monte.
Mais oui.
Même chose pour la collecte des déchets, il n'y en a pas en ce moment, où si c'est fait autonomement par des groupes de quartier, des groupes associés avec peut-être des différents partis ou des groupes religieux. Donc, ça aussi, c'est un problème sanitaire très, très problématique en plein été. Il y a toutes sortes d'histoires, de rumeurs, d'anecdotes qui courent dans la population à Bagdad sur, disons, Bechtel, qui a reçu un contrat et a sous-contracté le projet de reconstruction d'école, par exemple. Donc, un projet de reconstruction de 10 000 piastres qui est fait, qui est octroyé à une compagnie. La compagnie arrive à l'école, fait une petite peinture, puis aménage peut-être les fenêtres, puis c'est tout. Et les directeurs, les directrices d'école restent là à dire, ben, c'était quoi ça, c'est 10 000 piastres?
Il y a des trous dans les murs.
Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas d'équipement, etc. Donc, oui, il y a une grande corruption à ce niveau-là. Et il y a aussi le fait que, en ce moment, quand je suis partie, il me semblait, après avoir parlé à quelques personnes, entre autres un directeur de projet du RTI, du Research Triangle Institute, qui a aussi reçu des contrats de USAID et des Américains, des autorités provisoires, que presque tous les projets de reconstruction s'étaient plus ou moins arrêtés. Pas tous, je suis certaine, mais on avait vraiment ralenti à cause de l'instabilité et de la résistance.
Andrea, on va prendre une petite pause musicale. On va revenir après. J'aimerais parler avec toi, entre autres, des personnes que tu as rencontrées, les rencontres que tu as faites là-bas, comment ça a pu mettre en perspective aussi la perception que tu avais. Alors, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville, émission Planète Internationale. On revient tout de suite. Toujours à l'écoute de l'émission Planète Internationale. On s'entretient avec Andrea Schmidt, qui revient tout juste d'une mission d'observation, on peut appeler ça comme ça, en Irak. Je pense que tu es resté plutôt à Bagdad pendant
c'est
ton
ça.
Séjour. Tu es sorti un peu, mais...
Un petit peu, mais plutôt à Bagdad.
Et puis, ben justement, j'aimerais que tu nous parles des rencontres que tu as faites là-bas. Je présume que tu as rencontré des gens d'un peu... De la base, je présume que les gens que tu as rencontrés...
J'ai essayé de rencontrer des personnes d'autant de secteurs que possible. Et c'est clair qu'étant donné le déclenchement d'une violence militaire assez sévère au début avril, c'était un peu difficile à certains moments de faire toutes les rencontres que j'aurais aimé faire. Mais oui, j'ai rencontré des gens qui vivaient dans ces camps de personnes déplacées. J'ai rencontré des gens du Parti communiste, du Parti Dawa, du Parti Worker Communist Party of Iraq et le syndicat des sans-emploi. J'ai rencontré des gens dans des quartiers chiites, genre dans les quartiers plus bourgeoises à Bagdad. Donc, j'ai rencontré une diversité de personnes et j'ai pu entendre pas mal de perspectives différentes sur ce qui se passe présentement en Irak.
Puis qu'est-ce qui ressort globalement peut-être de ces rencontres-là?
Je pense que ce qui ressort presque partout, c'est que... les gens, même si peut-être il y avait des gens en avril 2003 qui avaient un espoir que, c'est après que Saddam était enlevé du pouvoir, qu'il y aura peut-être une ouverture pour un futur un peu plus aisé en Irak après 13 ans de sanctions, 3 guerres en 25 ans, et c'est cette occupation qui allait se déclencher. Maintenant, après un an d'occupation, plus d'une année,